Laudetur Jesus Christus.
Radio Vatican, le journal, Marie Duhamel.
Bonsoir à tous. Le pape François lance un appel pour que les armes se taisent au Cameroun, que la paix revienne dans les régions martyrisées, dit-il, du nord-ouest et du sud-ouest du pays. François, déconcerté après l'attaque de samedi à Kumba, un commando d'hommes armés a fait irruption dans une école de la ville tuant 7 enfants, âgés de 9 à 12 ans. Un acte tellement cruel et insensé, dit le pape, qui s'est uni ce mercredi à la douleur des familles. L'évêque du diocèse de Kumba, Mgr Agapitus Enuenyo Nfon, a accueilli ces paroles du pape avec gratitude. Attitude et soulagement.
J'aimerais remercier le Saint-Père d'avoir condamné cet acte barbare. Il s'agit vraiment d'un acte odieux de frapper des personnes qui vont étudier. J'aimerais donc remercier le Saint-Père pour cette condamnation, car elle va toucher de nombreux cœurs. Beaucoup de personnes savent que l'Église s'oppose à ce qui est en train de se passer, et les gens du diocèse de Kumba se sentent vraiment consolés par les mots du Saint-Père. La situation ici brise le cœur. Depuis l'attentat, les gens sont tristes, les enfants ne vont plus à l'école, les enfants sont en deuil, les parents sont en deuil. Depuis samedi dernier, les gens restent chez eux, les plus jeunes sont à la maison, les gens sont toujours effrayés.
Des propos recueillis par Michel Raviard, le pape qui s'exprimait à l'issue de l'audience générale en salle Paul VI ce matin. François a poursuivi son cycle de catéchèse sur la prière. Il est revenu sur la première prière de Jésus sur les bords du Jourdain lors de son baptême par Jean-Baptiste. C'est à retrouver sur notre site internet vaticannews.va. Et autre appel de François lors de son adresse aux pèlerins polonais, le pape a demandé à Dieu de susciter dans le cœur de chacun le respect pour la vie de nos frères et sœurs, en particulier pour les plus fragiles et les êtres sans défense. Cet appel alors que ce mercredi, des milliers de femmes se sont mises en grève dans tout le pays pour protester contre la décision de la Cour constitutionnelle limitant la possibilité de recours à l'IVG au seul cas de danger de mort pour la femme enceinte et de grossesse résultant d'un viol ou d'un inceste. À la suite de cette décision, des églises ont été taguées, des messes perturbées. Comment se dérouleront les célébrations de ce week-end, de la Toussaint et la commémoration des fidèles défunts? La progression de la pandémie de Covid-19 change la donne, notamment en Europe, où celle-ci est plus rapide qu'ailleurs, avec plus d'1,5 million de nouveaux cas ces 7 derniers jours. Au Vatican, le souverain pontife célébrera la messe lundi dans une forme strictement privée, dans le petit cimetière teutonique au sein des jardins du Vatican. En France, le président de la conférence épiscopale espère que les cimetières puissent rester ouverts pour la fête de la Toussaint. Mgr Éric de Moulin-Beaufort a adressé une lettre au président Macron quelques heures avant son intervention. Ce sera dans 2 heures, à 20h. Le président français devrait annoncer de nouvelles restrictions en raison du boom de l'épidémie. Et puis en Allemagne aussi, on attend de nouvelles annonces. Les bars, restaurants, installations sportives ou culturelles pourraient fermer pendant un mois. La chancelière Angela Merkel en discute avec les chefs de région aujourd'hui. La France fait l'objet d'une menace terroriste accrue ces derniers jours, nourrie par les appels à la haine. Mais en dépit des tentatives de déstabilisation, elle ne renoncera jamais à ses valeurs, notamment à la liberté d'expression et à la liberté de publication. Déclaration du porte-parole du gouvernement français ce mercredi. Alors que les tensions avec la Turquie sont reparties de plus belle après une caricature de Charlie Hebdo mettant en scène le président turc en sous-vêtements, buvant de la bière, soulevant la robe d'une femme voilée, la Turquie dénonce un acte de racisme culturel et menace la France de représailles judiciaires et diplomatiques. La Tunisie le soutient. Déclaration aussi du gouvernement français alors que plusieurs pays musulmans ont appelé à boycotter les produits français. En Malaisie, pays où 60% de la population est musulmane, le parti islamiste demande à ce que soit suivi cet appel au boycott, tandis que le ministre des Affaires religieuses a lui préféré citer les messages de paix proférés du Coran. Les précisions de Gabriel Maréchaux.
C'est le parti islamiste qui a le premier pris la parole. Devant l'ambassade de France, les dirigeants de la troisième force politique du pays, actuellement membres de la coalition au pouvoir, ont appelé au boycott des produits français et à la mobilisation en ligne des musulmans de Malaisie. Quelques instants plus tard, le ministre des Affaires religieuses ripostait à son tour en postant sur ses réseaux sociaux une lettre envoyée à l'ambassadeur de France. Et c'est en citant le Coran, « Quiconque tuerait une personne, c'est comme s'il avait tué tous les hommes » qu'il commence, avant de poursuivre en invitant le diplomate à profiter discuter du calendrier religieux actuel, avec la commémoration de l'anniversaire du prophète ce jeudi, pour se renseigner sur le message de celui-ci, en lisant par exemple le livre consacré à Mahomet qui lui envoie. Aucun appel au boycott donc, dans les propos du ministre, ni dans ceux du chef de l'opposition, Anwar Ibrahim. Ce dernier a assuré porter le deuil de Samuel Paty et de toutes les victimes du terrorisme, avant d'ajouter qu'il était cependant offensé par les propos du président français qui parlait d'islam en crise dans le monde entier. Kuala Lumpur, Gabriel Maréchaux pour Radio Vatican.
Et toujours en Malaisie, on a appris le décès à 88 ans ce matin de Mgr Anthony Soter Fernandez, l'archevêque émérite de Kuala Lumpur et premier cardinal à être originaire de ce pays. En Inde, 70 millions d'électeurs appelés à voter dans l'état du Bihar, un des plus pauvres du pays, dirigé par une coalition comptant le parti nationaliste du premier ministre Narendra Modi. Ce dernier a promis l'accès gratuit à un éventuel vaccin en cas de victoire. Les bureaux de vote ont été pris d'assaut, sans grand respect des règles de distanciation sociale. Élections présidentielles et législatives aussi ce mercredi en Tanzanie. Les opérations de dépouillement ont débuté ce soir pour départager 15 candidats à la présidence. Le principal candidat de l'opposition, Tundu Lissu, dénonce des irrégularités de grande ampleur. Il défie le chef de l'État sortant, John Magufuli. En Guinée, 10 jours après une élection présidentielle au résultat controversé, l'opposant numéro 1 au président Alpha Condé, Sélou Dalène Diallo, serait désormais libre de ses mouvements. Les forces de sécurité empêchant l'accès à son domicile à Conakry ont levé leur barrage. Au Burkina Faso, l'élection présidentielle aura lieu le 22 novembre prochain, un scrutin là aussi à risque dans un pays déstabilisé depuis plusieurs années par la violence djihadiste. Lundi dernier, les 13 candidats ont signé un pacte de bonne conduite, les engageant à faire campagne de manière responsable. Mais malgré cette bonne volonté, les élections pourraient être propices à des flambées de violence car les groupes terroristes ont un intérêt particulier à déstabiliser ce pays du Sahel. En 5 ans, les violences ont fait 1200 morts, 1 million de déplacés. Le Burkina Faso est un pays fragile, encore traumatisé, mais les solutions sont là pour faire baisser la violence. L'église burkinabé y apporte sa contribution. Notre invité est Mgr Laurent Dabiré, l'évêque de Dori, au nord-est du pays, président de la conférence épiscopale du Burkina-Niger.
La grille de lecture qui veut faire de ce conflit un conflit religieux n'est pas exacte parce que s'il y avait un conflit religieux, je pense que la tournure des choses serait tout autre. Mais il y a une sorte d'insurrection terroriste. On a tout un ensemble de centres d'intérêt. Il y en a qui s'y engagent, peut-être pour leur foi, les idées que propagent les terroristes, un modèle de société qu'ils veulent. Il y en a qui s'y engagent pour des raisons économiques, parce que bon, c'est pour eux un débouché, un gagne-pain. Il y en a qui s'y engagent au titre peut-être de leur appartenance à une localité, à une ethnie. C'est un mélange de cet ensemble de choses. Mais la religion est de temps en temps évoquée, et c'est des tentatives, à mon avis, de rallier le maximum de gens. Quand on réussit à intoxiquer les gens, à leur dire que c'est en vertu de leur foi, ou bien c'est pour soutenir leur religion qu'il faut combattre, on récolte un certain nombre d'adeptes. Mais dans la réalité, les religions ne sont pas en lutte, sinon ce serait beaucoup plus grave.
Quelles sont les pistes, selon vous, pour revenir à la paix au Burkina Faso?
Vous convenez avec moi qu'on ne peut pas dialoguer s'il y a des hommes en armes partout. Donc il faudrait pouvoir contenir ce phénomène-là dans des limites raisonnables pour que la confiance puisse renaître, que le dialogue puisse s'instaurer et le dialogue permettra de progresser sur le chemin de la paix et la reprise des activités de développement dont on a grandement besoin. Dans ce dialogue-là, le dialogue interreligieux est important pour qu'il soit éloigné toute tentation donc de faire de la religion donc un motif d'opposition. Le Burkina a vécu pendant des décennies sans connaître cette radicalisation, cette opposition qu'on veut amener. Mais il faut que on rende la société burkinabé capable de résister à cette poussée du radicalisme de nature religieuse et aussi de nature ethnique. Et maintenant, le facteur développement, aider vraiment les populations qui luttent à être résiliente pour que le désespoir ne conduise pas des gens à faire des choix malheureux contre leur propre pays.
Interrogé par Olivier Bonnel, Mgr Laurent Dabiré, l'évêque de Dori au Burkina Faso, était ce soir l'invité de Radio Vatican. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. L'actualité revient demain matin à 8h30. D'ici là, une excellente soirée à tous.